Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Alors, nous sommes avec Camille Tamaseb, avocate spécialisée en droit des affaires et droit des sociétés. Camille, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a conduite au droit des affaires et des sociétés?
Oui, alors effectivement, je suis avocate en droit des affaires et des sociétés. J'ai commencé par faire un master 1 spécialisé en droit des entreprises, un M2 propriété intellectuelle, donc c'est tout ce qui est droit des marques. Et pendant 4 ans, j'ai fait avocate, on va dire généraliste, donc c'est-à-dire de traiter du conflit de voisinage, au divorce, à la garde à vue, parce que j'avais quand même une grosse appétence pour le droit pénal. Et à un moment donné, j'ai basculé plutôt vers du salariat. Donc c'est là où je suis revenue vers le droit des entreprises. Et j'ai redécouvert une relation, enfin, que j'aimais bien avec le chef d'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, avec un chef d'entreprise, quand on est avocate en droit des affaires, du coup, tu peux nouer une relation de confiance. En fait, c'est une relation qui est régulière. Chaque année, je vais voir le chef d'entreprise, il va avoir confiance en moi, il va me poser des questions. Et donc j'ai basculé sur ce droit des entreprises parce que, notamment, j'avais cette relation, en fait, avec le chef d'entreprise qui était plus continue que, par exemple, quand tu vas juste faire un divorce pour monsieur ou madame X. Tu vas le voir une fois, normalement, et puis tu vas pas le voir une deuxième fois. Enfin, tu divorces pas chaque année, quoi.
Donc, ce que tu aimes, toi, c'est la relation dans la durabilité, le fait de pouvoir tisser un lien avec, en l'occurrence, les chefs d'entreprise, donc tes clients. C'est plutôt du one shot sur tout ce qui est pénal.
Tout à fait ça. Ouais.
À moins qu'ils soient multirécidivistes. De toute façon, le malheur des uns est toujours le bonheur des autres.
Oui, c'est sûr.
Et alors, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier, hormis le fait, par exemple, de pouvoir avoir cette proximité avec ton client? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes en particulier?
Alors, dans la proximité avec le client, ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent, la vie des affaires, c'est pas juste une vie économique. En fait, le chef d'entreprise, sa vie personnelle va souvent être liée à la vie économique. Voilà. Si par exemple, il va se marier, il va y avoir des questions de transmission de parts, peut-être, s'il a des enfants, s'il y a un divorce, il faudra peut-être faire sortir madame de la société, s'il y a un déménagement, etc. Donc en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, en fait, le côté juridique, finalement, est très lié à la vie personnelle. Donc on rentre quand même dans l'intimité de la personne et il y a vraiment ce lien avec l'humain en fait qui est là et dans l'intimité de la personne. Donc oui, c'est vraiment toute cette partie confiance, intimité,
complexe humain, aussi j'imagine, ouais, parce que c'est t'es toujours obligé d'ajuster. Il y a jamais rien de figé.
C'est ça. Et effectivement cette partie adaptabilité justement que j'aime bien, tu me retrouves aussi avec les évolutions législatives qui sont assez complexes. C'est toute cette partie recherche juridique que tu peux faire derrière avec l'adaptabilité et c'est une stimulation intellectuelle tout le temps, donc c'est assez enrichissant.
Et alors, qu'est-ce que c'est une journée type pour toi dans ton activité?
Alors,
tu te lèves à quelle heure?
Non. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Ça peut être aussi bien parce que j'essaye aussi de faire des permanences.
Au tribunal?
Ouais, des permanences, par exemple, plutôt garde à vue, etc. Tu peux être appelé un petit peu à n'importe quel moment. Dans tes journées types, en général, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder une demi-journée où je vais avoir tous mes rendez-vous clients. Tu vois, par exemple, le matin, et puis l'après-midi, me consacrer à la rédaction des documents. Ça, c'est dans une journée idéale, parce que, évidemment, t'as toujours les clients qui t'appellent, les urgences, des choses à gérer. Donc voilà, en fait, j'essaye surtout de découper ma journée en deux parties.
Et tu plaides?
Alors, je plaide moins, beaucoup moins, parce que moi, j'interviens surtout sur la partie conseil, donc en amont. Plutôt vraiment la partie rédaction, les rendez-vous avec les clients, ça, c'est vraiment mes deux pôles. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'avocat, à la différence d'un juriste, c'est que tu vas avoir cette multi-casquette où, par exemple, si j'ai un entrepreneur qui a une difficulté, je vais pouvoir l'accompagner jusqu'au procès. Ce que j'apprécie, c'est de pouvoir tout sécuriser en amont et d'éviter justement cette partie contentieuse derrière.
Oui, parce que tous tes cas ne finissent pas en procès.
Non. Heureusement. Non, pas du tout. Non. Moi, c'est plutôt vraiment une partie conseil. Voilà. L'entrepreneur vient me voir. Il me dit, bon, voilà, j'ai... par exemple, le mieux, c'est quand il vient me voir en amont. Voilà, je vais constituer ma société. Du coup, on fait le point sur ses attentes, etc. Et on borde le sujet au niveau juridique et aussi au niveau comptabilité fiscale. Donc là, je suis vraiment en lien avec les experts comptables en général. D'ailleurs, parfois, les clients peuvent venir de l'expert comptable directement. Donc là, ils ont déjà un peu bordé au niveau de la fiscalité. Nous, on borde l'aspect juridique. On regarde. C'est ce que je dis aux entrepreneurs quand ils viennent me voir ou aux chefs d'entreprise. Je préfère que vous veniez me voir, que vous me posiez des questions, même que vous m'appeliez pour des questions qui ont l'air bêtes ou anodines, mais qu'on puisse tout sécuriser plutôt que vous fassiez des choses dans votre coin. Et après, à rattraper, ça peut être plus dur, plus long, plus coûteux, donc ça a absolument aucun intérêt par rapport à ça.
Et alors toi, du coup, t'es plus dans la prévention que dans la gestion de crise?
Complètement, dans la prévention. Si on intervient en gestion de crise, pour moi, c'est plus que le rôle de conseil à la base, il a été pas assez bien perçu.
Oui. Mal fait.
Il y a eu un trou dans la raquette.
Quelles sont les problématiques d'ailleurs que tu rencontres le plus souvent, toi, dans les différents cas de figure que tu as?
Au niveau des associés, ça serait vraiment, en fait, à partir du moment où tu fais rentrer l'humain dans la société, donc c'est-à-dire s'il y a vraiment beaucoup d'affects. Donc par exemple, monsieur et madame qui constituent une société, bon bah si tout va bien, c'est impeccable. Le problème, c'est que si un jour il y a un divorce ou des dissensions au sein du couple, ça rejaillit directement sur la société, ou des amis qui s'associent, ou voilà, des jeunes qui peuvent s'associer, qui sont amis, ouais, plus quand il y a vraiment le bien au départ, en fait.
Moi, c'est vrai que par le passé, j'ai déjà été confrontée à des entreprises qui avaient fait cette erreur, oui et non, en fait, pensant sécuriser, par exemple, leur conjointe, parce que souvent, les artisans, la femme des artisans a tendance à travailler pour le mari et n'est pas forcément déclarée, etc. Et certains veulent les préserver et les mettre à l'abri, sauf que le jour où ça va plus, ils se retrouvent un peu pieds et poings liés.
Alors, le problème dans ce type de situation, c'est qu'en général, notamment avec un conjoint ou par exemple quand tu vas travailler avec un ami, c'est que tu penses pas à sécuriser au niveau juridique. C'est comme quand tu vas te marier, tu vas dire non, je vais surtout pas faire de contrat de mariage parce que c'est pour toute la vie, etc.
Mais c'est ce que disent les notaires en lien avec ce que tu dis souvent, tout est beau, tout est rose, donc on s'en préoccupe pas, sauf que le jour où le fait de se préparer à des éventualités un petit peu moins optimistes nous fait pas forcément les vivre, mais c'est quand même nécessaire
ça permet d'anticiper, et surtout que là il y a des aspects économiques après qui rentrent en jeu et qui sont importants quand t'as une société.
Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, quand deux amis veulent s'associer, est-ce que il est préférable de partir sur du 50-50, 49-51? Quelle est la forme la plus sécurisante?
Dans la réalité, faire 50-50 ou 49-51, ça va pas changer grand-chose. Oui. Hein. Les décisions dans les sociétés, en général, dans les statuts, ce qui est prévu, c'est que c'est pris aux deux tiers. Donc, ça change pas grand-chose. Alors, ce qui va être problématique, c'est que si tu mets les deux en 50-50, il y a deux co-gérants. Parce que là, du coup, le gérant, en gros, c'est celui qui va avoir le pouvoir sur les comptes bancaires, qui va pouvoir administrer la société, etc., gérer, en fait, la société. Si les deux sont associés, les deux à 50-50 et les deux co-gérants, s'ils sont plus d'accord, ça va bloquer. Si les rôles sont bien définis dès le départ, et que, par exemple, tu décides que ça va être Monsieur X qui va être gérant, dans ces cas-là, même s'il y a une dissension au niveau des associés, lui, il pourra quand même faire tout ce qui est gestion...
Pour garder la main mise.
Exactement, pour garder la main mise sur la société.
Et alors, est-ce qu'il est préférable, de ce que toi tu constates, par exemple, de consulter plutôt un avocat fiscaliste pour tout ce qui est choix du statut, etc., plutôt que d'aller voir un expert comptable quand on lance son entreprise?
Je pense que c'est deux métiers qui sont complémentaires. L'expert comptable, normalement, il a quand même une expertise assez poussée sur la fiscalité. Et l'avocat, il va plutôt venir sur la partie juridique, même s'il va avoir des connaissances sur la partie fiscale. Comme l'expert comptable va avoir des connaissances sur la partie juridique, il y a des experts comptables pour qui la partie juridique, ça va vraiment être leur dada, tu vois. Donc en fait, ils vont être
au taquet
et aussi compétents qu'un avocat. D'autres pour qui ça sera plutôt la partie fiscalité. Et c'est pour ça que quand on fait un projet, j'aime bien faire une... réunions, on va dire, interprofessionnelles. Tu vois, même pour la transmission, c'est pareil, moi je vais pouvoir avoir des notions pour être sûr que ça soit carré, devoir aussi de faire un rendez-vous avec le notaire, tu vois. Même si par exemple tu vas avoir toutes les compétences au niveau juridique, tu sais, avoir un autre regard. Le client va pouvoir venir te voir, il va te donner des informations, et puis il va pas penser à te donner certaines informations qu'il va donner par exemple à l'expert comptable, au notaire, et en fait, d'avoir cette réunion et de ce regard à trois, ça va permettre vraiment de oui, pallier tous les trous qu'il peut y avoir dans la raquette.
D'être complémentaire et optimal.
Il y a une complémentarité pour le coup.
Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent alerter un dirigeant sur un risque de conflit d'associés?
À partir du moment où ça peut être bloquant, c'est à partir du moment où t'as l'émotionnel qui va vraiment rentrer en jeu, ce qu'on disait, donc ça c'est plutôt au début. Et après, quand l'associé va commencer à contester un peu toutes les décisions, et que ça va vraiment, tu vois, quand tu vas vouloir faire une assemblée générale, enfin il va venir bloquer en fait, et ça, à partir du moment où ça va vraiment impacter la bonne marge de l'entreprise en fait. Voilà, et que ça va impacter aussi la rentabilité de l'entreprise, là ça veut dire qu'il y a vraiment... une grosse problématique au niveau des associés.
Quel conseil tu donnerais, toi, pour rédiger des statuts solides ou un pacte d'associés?
Ouais. Alors, effectivement, dans les statuts, tu peux effectivement rédiger un pacte d'associés dès le départ, quand tu veux anticiper les clauses de sortie, d'entrée de l'associé. Et sur les statuts, et si effectivement l'entrepreneur s'associe avec quelqu'un dont il n'est pas sûr, ou parce que juste il veut sécuriser son business, et c'est normal. Dans ces cas-là, il faudra vraiment voir avec l'expert comptable ou l'avocat, effectivement, dire bon ben voilà, toute la partie la sortie justement de l'associé qui peut aussi être prévue, et aussi tout ce qui est pour les ventes de parts ou d'actions. Tu vois, de dire dans quel cas est-ce qu'on a besoin de tout l'accord de l'assemblée générale, ou est-ce qu'il faut une unanimité ou pas. Tout ça, ça peut être une partie qui peut être un peu blindée, qui peut permettre d'éviter, bah, par exemple, en cas de décès de l'associé, que n'importe qui rentre, sans que l'autre personne soit d'accord, sans que l'autre associé soit d'accord, ou effectivement, en cas de vente de l'associé part, s'il vend ses parts ou ses actions, que ça soit pas n'importe qui rentre et que l'autre associé ait un droit de regard. Donc ça peut être important de le voir dès le départ, et c'est vrai que si on n'a pas cette problématique qui est mise sous les yeux, c'est pas forcément quelque chose que tu vas forcément blinder ou sécuriser pour chaque cas, notamment si la personne... au départ, créer sa société toute seule, tu vois, tu vas créer des statuts standards, classiques, et puis après, effectivement, si tu fais rentrer un autre associé, à ce moment-là, ça peut être bien de faire évoluer tes statuts dans ce sens-là, pour en cas de vente ou en cas de décès d'un associé.
Quelles erreurs, toi, tu vois le plus souvent lors de la transmission d'entreprise ou de la cession d'entreprise? Moi, j'ai tendance à croire que c'est une chose qui est encore pas assez prise au sérieux par les chefs d'entreprise.
La transmission, c'est clairement jamais anticipé. Ça commence un petit peu à l'être, mais par le biais des SCI, tu vois, quand tu constitues un patrimoine immobilier, plus ça. Et après, pour une transmission, une cession d'entreprise, là, ce qui est important de voir, c'est en gros, et ce qui peut être un peu négligé, si par exemple tu cèdes ton entreprise à un tiers, il faut vraiment faire un audit de l'entreprise assez complet pour vérifier en fait tous les contrats, tous les prêts, etc., tous les engagements pris par la société qui vont être repris par le repreneur. Et ça, enfin, faut vraiment, donc là, le travail de l'avocat est assez minutieux, parce que en fait tu fais vraiment un audit sur tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est parfois pas assez pris en compte. Par les personnes, je vais reprendre une entreprise, bon bah c'est chouette, oui mais alors attention, reprendre l'entreprise, tu reprends l'actif, le passif, tu reprends les contrats en cours, les contrats des salariés, donc est-ce que c'est prêt, donc faut checker aussi l'ancienneté, enfin, tu vois, les congés payés potentiellement, si le salarié part, ben est-ce que ça peut te coûter aussi en licenciement, etc. Et tout ça, c'est vraiment
il y a énormément d'informations
à checker, et ça en général c'est oui, je vais reprendre une société, bon bah là elle est rentable. Ok, elle est rentable, mais attends.
Ça suffit pas. c'est plus complexe.
Se passe derrière.
Comment t'accompagnes une entreprise aujourd'hui, une entreprise qui veut se développer, commercialement par exemple, pour la prémunir juridiquement?
Ça va dépendre du type de projet. Par exemple, typiquement, si c'est une start-up et c'est très dans l'air du temps, ça, tu vas partir par exemple plutôt sur une SAS, d'accord? Parce que une SAS, c'est beaucoup plus souple au niveau du fonctionnement, et même au niveau de la transmission des actions, c'est beaucoup moins impactant au niveau fiscal. Donc voilà, en fait, ça va dépendre du projet. Mais effectivement, pour tout ce qui est start-up, en général, tu vas plutôt partir sur une SAS, par exemple.
Pour conclure par rapport à ça, avant de passer à la suite, toi, ta vision idéale de la relation entre l'avocat et le chef d'entreprise, quelle est-elle ?
Alors, pour moi, c'est vraiment une relation de confiance. Des fois, on peut ressentir que le chef d'entreprise, il va pas forcément penser à parler de telle ou telle problématique ou à nous voir plutôt comme quelqu'un qui va mettre des freins en disant « Oui, mais attention, si vous faites ça, il va y avoir ça, etc. » Et moi, ce que j'aime bien, c'est la réactivité aussi derrière. Donc, de ma part hein, et aussi de la part de mes clients. Oui. Voilà, parce que souvent, ils veulent des projets qui soient rapides, mais il faut aussi qu'ils puissent y répondre et qu'ils soient là derrière. Donc, c'est oui, vraiment une confiance et réactivité.
Est-ce que ta place et le fait de sécuriser une entreprise par rapport à tout ce qui est juridique, est-ce que toi aujourd'hui tu peux affirmer qu'il y a un impact sur la performance aussi, j'imagine, d'une entreprise ou pas?
Ah oui, mais c'est une évidence. Bah, ne serait-ce que parce que le chef d'entreprise sait que toute cette partie-là est déléguée, comme quand tu délègues la partie comptable ou une partie RH. Donc tu sais que c'est délégué, donc il va pouvoir lui vraiment performer.
Se consacrer sur autre chose.
Exactement, sur sa partie business. Et malgré tout, bah, c'est ce qu'on disait, hein, le juridique, c'est lié avec la fiscalité et la comptabilité. Donc si c'est bordé, ça permet après, sur la rentabilité propre, voilà.
De l'entreprise.
Ouais.
À l'heure où l'IA prend une place assez importante, toi, au niveau des évolutions récentes, comment est-ce que tu imagines que cela va impacter le droit des affaires par rapport aux entreprises?
Déjà, je pense que les avocats n'utilisent pas assez l'IA. Si tu regardes un peu sur les statistiques, on l'utilise pas assez bien. Et l'IA, ça peut permettre vraiment de dégager du temps pour l'avocat, pour tout ce qui va être, on va dire, assistance juridique. Alors, faut savoir comment bien servir de l'IA, et là, c'est pas encore assez développé à mon sens. Mais ça peut te permettre de condenser, enfin, tu lui lances des documents, il va pouvoir te sortir les décisions, les jurisprudences, etc. Donc vraiment faire tout ce travail de petite main qui peut te prendre du temps, notamment quand t'es avocat au départ à ton compte, toi, ça va te dégager du temps pour après vraiment
être plus sur la partie conseil.
Sur la partie conseil, voilà. Qui, là, on a une vraie plus-value. Mmh. Et ça qui sera jamais remplacé par l'IA et ni sur le côté humain. Enfin, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas déléguer toute la partie rentabilité de ton entreprise à une IA, tu vois? Enfin, je pense qu'on n'en est pas encore là.
Est-ce que tu penses qu'il y a des changements réglementaires aujourd'hui que les dirigeants ont tendance à encore sous-estimer? Je sais que d'ici peu, alors je sais pas si tu seras concerné par ça, mais tout ce qui est facture électronique, ouais. Voilà, est-ce que je sais que ça tombe pour septembre 2026?
Alors,
bon, ça a été reporté à de multiples reprises, donc pas de quoi, à mon avis, s'angoisser non plus, mais... Est-ce que ça, j'imagine que ça fait partie des choses que les entreprises...
Oui, tout l'impact sur la dématérialisation de manière globale. Et de toute façon, ça c'est sûr que c'est une vraie problématique. Mais au niveau juridique, on est aussi sur toute cette dématérialisation. Donc ça, je pense que les chefs d'entreprise qui sont là déjà depuis assez longtemps, ils sont pas vraiment avec toute cette nouvelle technologie. Puis ils ont eu tendance à... Voilà, les 25 dernières années, ils ont travaillé de cette façon-là, donc c'est compliqué pour eux d'intégrer des nouveaux process. Par contre, pour les jeunes, justement, qui partent sur des startups, des SAS, des machins, au contraire, ils préfèrent, c'est plus fluide, c'est plus facile. Voilà, donc t'as vraiment, en fait, deux types de clientèle, en fait.
Bon, alors après, je précise qu'on est en Dordogne, donc on a quand même plus... On a quand même plus d'entreprises un petit peu rurales où ça fait 25 ans que leur entreprise est déjà grippe que de start-upers.
Mais c'est sûr.
Mais ce n'est pas péjoratif. Hein.
Non.
Est-ce qu'il y a un cas, toi, inattendu où un entrepreneur a eu besoin de toi? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, une demande particulière?
Oui, alors moi, j'avais justement pour des jeunes... En gros, c'était deux jeunes qui voulaient constituer une société, qui avaient commencé à faire les démarches pour constituer la société. Ça n'a pas abouti parce qu'ils se sont disputés et donc ils ont arrêté le process. Ils ont arrêté le process. Sauf qu'entre temps, évidemment, s'il n'y a pas de problématique, ils avaient encaissé à peu près, pas mal de chiffres d'affaires, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, comme ils n'avaient pas de société, de structure, ils l'avaient encaissé sur une des sociétés qui appartenait à des associés. Évidemment, conflit, évidemment, donc la personne qui avait déjà sa boîte et qui avait encaissé le chiffre d'affaires a dit non, mais c'est mon chiffre d'affaires, Donc non, t'auras rien.
Ouais, terrible.
Ouais. Donc là, on repart sur les parties de... Tu t'investis, tu fais confiance, tu te dis, bah allez. Et pour le coup, là, c'était vraiment typiquement des jeunes, donc ils se sont lancés, ils n'ont pas réfléchi. Ça a été un peu compliqué au niveau juridique, mais finalement, ça va. On a eu gain de cause, donc en fait, il est reparti avec 50% de ce qui avait été prévu.
Ah bah génial.
Voilà.
D'accord, sans jamais avoir été finalement concrètement associé.
Exactement, voilà. Mais par des biais juridiques, on a pu retomber, prouver qu'il y avait un contrat en fait qui avait été mis en place, ce qui avait été un peu compliqué évidemment à défendre parce qu'effectivement, donc c'était encaissé sur la société de l'autre, donc la défense était de dire ben non, mais c'est mon chiffre d'affaires. Bon, sauf qu'il y avait quand même quelques échanges qui allaient en ce sens.
Est-ce qu'on t'a déjà donné un conseil au cours de ta carrière qui s'est avéré marquant?
Oui, alors c'était pas au cours de ma carrière, mais c'était pendant l'école des avocats. Un professeur nous avait dit que notre client était notre pire ennemi.
D'accord.
Voilà. Et en fait, alors pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait quand le client vient nous voir, donc c'est pas sur la partie conseil, mais vraiment plus sur la partie défendre un dossier. En fait, il te transmet pas toute la vision d'ensemble du dossier parce qu'il estime que tu vas le juger. Sauf que en fait, il faut qu'il parte du postulat qu'il faut nous donner toutes les informations du dossier et après nous on fait au mieux pour le tirer de ce mauvais pas. Sauf que lui, souvent tu sais quand tu as fait une erreur même en tant qu'être humain, c'est compliqué d'aller l'avouer.
De l'assumer, oui, bien sûr.
Ouais, et de l'assumer. Donc là, c'est pareil. Et aussi notre pire ennemi parce que malgré tout, sur tout ce qui est facturation sur honoraires, etc., il faut pas leur faire confiance et anticiper ça aussi.
Mais c'est vrai que c'est dommage parce que si les gens avaient tendance à faire facilement confiance à leur avocat et à leur dire voilà, ça éviterait bien des surprises j'imagine lors de certains procès.
Exactement.
Mais ça permettrait d'avoir une défense
plus solide, au mieux de ce qu'elle
pourrait être. Est-ce qu'il y a un mythe toi que t'aimerais déconstruire par rapport à ton avocat, des préjugés que les gens peuvent avoir que t'aimerais déconstruire?
Alors le mythe de l'avocat, ça serait lié plutôt à la classe sociale et à ce que gagne un avocat. Le prestige en fait qui est autour de la profession d'avocat. C'est sûr que c'est une belle profession et c'est une noble profession parce qu'il y a tout l'aspect, enfin on représente quand même un peu la justice. Puis on a la robe qui va avec, donc il y a vraiment toute cette mise en scène. Mais par contre, aujourd'hui, oui, c'est vrai que quelqu'un de lambda va tout de suite se dire que l'avocat voilà a une belle vie, c'est facile pour lui de gagner sa vie, etc. Et avocat, ça reste une entreprise comme une autre, donc avec toutes les problématiques qui s'y attachent.
Oui, c'est ce qu'on a tendance à occulter, c'est vrai. Mais un des préjugés, c'est bon, bah je consulter un avocat, c'est un certain coût,
voilà,
c'est pas dans mes possibilités.
Tout à fait.
Est-ce que toi, il y a un type de dirigeant qui te challenge?
Les jeunes plutôt justement, et que j'aime bien. Alors même si ça peut partir dans tous les sens et qu'ils vont pas forcément penser à se protéger dès le départ, par contre ils ont cette capacité à innover et à foncer, à avoir des nouveaux projets, donc en fait leurs entreprises vont vachement évoluer et ça va être hyper intéressant au niveau juridique.
Cas concret, Camille, si je te dis je me lance demain, quelle est la première question que tu me poses pour m'aider à choisir mon statut?
Déjà tu te lances dans quel objet pour ta boîte, quels sont tes projets aussi pour ta boîte après derrière, si tu rentres toute seule ou pas, si tu vas prendre une associée ou pas. Donc est-ce que tu envisages de faire rentrer quelqu'un assez rapidement ou pas dans ta boîte, de savoir quel type de... Alors en général ça va être SARL ou SAS. Ce que tu prends, ça va être au niveau de la couverture sociale et au niveau des charges sociales. Est-ce que tu as besoin d'une meilleure protection sociale? Par contre tes charges vont être beaucoup plus importantes. Donc tu vas plutôt partir sur une SAS et sinon tu vas plutôt partir sur une SARL. Tu vas avoir une couverture sociale qui va être moins importante mais avec des charges moins importantes. Et si tu veux effectivement faire rentrer des actionnaires dans ta boîte, tu vas partir sur une SAS, sinon tu vas plutôt partir sur une SARL. La SAS est plus souple. Donc il n'y a pas de statut idéal.
Est-ce que ça dépend aussi de la façon dont tu veux te rémunérer, le statut ou pas?
Oui, exactement. Oui. Là on parle sur les charges sociales, effectivement.
Oui, d'accord.
Voilà, si tu peux un SARL ou SAS.
Quel réflexe fiscal, selon toi, devrait avoir un entrepreneur avant de facturer son premier client?
Avant de facturer son premier client.
Connaître son taux TVA,
non? C'est j'y ai pensé. Savoir s'il va être assujetti à la TVA ou pas. Et de voir si la facture a toute... Alors moi, ça, c'est un réflexe plutôt, c'est plutôt sur l'anticipation de qu'est-ce qui se passe si la facture n'est pas payée. Donc avec les mentions obligatoires sur la facture, etc. Mais effectivement, après la TVA, c'est aussi très important derrière.
Mais je vois qu'en effet, oui, des artisans se couvrent de plus en plus. Il y a des petites phrases, je crois, qui stipulent que tant que c'est pas réglé, ça leur appartient toujours.
Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est plutôt sur ça derrière. Et effectivement, moi, je leur conseillerais toujours de prendre un acompte. Et,
30%?
Ouais, 30%. C'est
classique, ça marche. Est-ce qu'il y a un point fiscal que les entrepreneurs découvrent trop tardivement à chaque fois? Payer l'URSSAF. Merde.
Alors c'est vrai, non, sur l'URSSAF, tout ça, ça peut être important. Effectivement, quand tu constitues une boîte, souvent les deux premières années, tu as des exonérations d'impôts. Il faut bien provisionner pour la troisième année. Là, tu commences à être assassiné au niveau de l'URSSAF, etc. Donc, faut bien prévoir, même si tu te dis que les deux premières années, c'est chouette. En fait, finalement, ta société est hyper rentable. C'est à partir de la troisième année, quatrième année que tu vas pouvoir le voir. Et effectivement, tu vas avoir des charges qui vont vraiment augmenter à ce niveau-là.
Est-ce qu'il y a une optimisation fiscale simple que les chefs d'entreprise ont tendance à négliger? Une chose à laquelle ils pensent pas et qu'on pourrait tous faire, par exemple?
Alors, tous faire, je sais pas. En tout cas, pour les entreprises, par exemple, qui viennent de commencer, tu peux, par exemple, quand t'es en EI, tu vois, pour une, je pense à une petite boîte, parce que quand tu es en SARL, SAS, t'as déjà une stratégie, une optimisation fiscale. Ça peut être de voir si c'est pas intéressant de basculer au niveau de la comptabilité sur du réel ou pas. Ou de rester en micro et de savoir si tu restes à l'IR ou si tu peux passer à l'IS. Ça peut faire des économies.
Est-ce qu'il y a une assurance ou une garantie qui est indispensable quand tu as une entreprise?
Alors, ce à quoi les chefs d'entreprise pensent pas forcément, ça peut être effectivement les mutuelles, pour tout ce qui est retraite aussi, pour la madeleine, etc., la défiscalisation. Donc oui, ça peut être ça, ils y pensent pas forcément, et là c'est pour le coup l'expert comptable va pouvoir le conseiller, mais j'ai constaté que souvent c'était pas des réflexes, voilà, tu vas pas le faire dès le départ. Donc après, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir voir l'avocat, parce qu'effectivement si ta situation évolue, tu peux effectivement faire évoluer ta protection.
Oui, mais d'ailleurs en fonction du chiffre d'affaires, parce que y en a aussi beaucoup qui commencent et qui se couvrent en prévoyance, etc., mais qui ne reviennent pas dessus.
Oui, quand ton chiffre d'affaires
a évolué.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Est-ce que toi, il y a une femme ou une personne qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de devenir avocate, ou qui t'inspire au quotidien, même dans ton un peu ton mindset de tous les jours?
Une femme, t'as dit?
Une femme ou une personne? Tu peux dire que c'est moi, mais tu te sens pas obligée.
Effectivement. Qui d'autre que toi, Carolina? Non, c'est ma réponse.
On reste là-dessus.
Non, après, dans les grands avocats, il y avait Simone Veil ou Robert Badinter, en gros, en grands avocats.
D'accord. Et est-ce que, alors, pour conclure, si tu peux avoir une super puissance juridique, qu'est-ce que tu choisirais?
Le pouvoir de simplifier les lois.
Oui, ça serait pas mal, en effet.
Ça serait pas mal.
Ouais, parce que, au moins, l'avantage que l'IA n'aura jamais sur vous, c'est que comme toutes les lois sont interprétables, oui, on ne pourra pas
sûr.
Se passer de l'humain.
Exactement, ouais. Ça c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille?
Ce qu'on peut me souhaiter par la suite, c'est de continuer à ce que le cabinet se développe. Pourquoi pas une antenne dans un département limitrophe de la Dordogne? Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Donc moi, je suis au barreau de Bergerac.
Et ben voilà, n'hésitez pas à aller contacter Camille Tamasep si vous avez une entreprise ou vous souhaitez en créer une.
Merci.
À bientôt, merci Camille.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.